Nous sommes le 10 octobre et c'est donc la dernière séance du séminaire sur Job, chapitre 38 à 42. Nous avons donc repris ensemble « Le Seigneur répondit alors à Job, du sein de l'ouragan ». Nous avons relevé durant le sous-groupe comment l'ouragan ou la tempête revient dans plusieurs théophanies, entre autres Élie qui monte au ciel dans l'ouragan ou la tempête. En Isaïe en 29,6, tu seras visité du Seigneur Sabaoth dans le fracas, le tremblement, le vacarme, ouragan et tempête, flamme de feu dévorant. En Jérémie, la tempête du Seigneur, la fureur éclate, un cyclone tourbillonne. Et en Ézéchiel, encore, je regardais, c'était un vent de tempête. Donc à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste dans l'ouragan. Et pour ce qui est de Job, la tempête ou l'ouragan est également, selon le récit, l'état d'âme de Job, qui, comme en d'autres circonstances, fut le cas pour Moïse, pour Jérémie, Job se sent accusé et abandonné de tous. Alors que les amis ont été de marbre, Dieu rejoint Job en son chaos. C'est en se faisant le tout proche qu'il se manifeste comme le tout autre. Nous continuons. Qui est celui qui dénigre la providence par des discours insensés, saint donc terrain, comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? Dis-le-moi, puisque tu es si savant. Verset 2. Du chapitre 38. Alors, je reprends ici Jean Radermakers qui relève vraiment à quel point le lecteur s'attendrait à des paroles apaisantes de la part de Dieu, à une consolation. Et voilà que nous sommes dans le questionnement qui se passe au sein d'un dialogue. Dieu répond à Job, Job répond à Dieu. Enfin, Dieu a pris la parole pour répondre personnellement à Job, pour répondre à cette attente. Mais pourquoi ces questions? Dieu mènera-t-il Job à un bouleversement, peut-être à changer de prisme, à changer son rapport à son vécu? Nous allons reprendre au chapitre 40 cette question. Dans le chapitre 38, je vais directement passer à la vision d'ensemble. Et nous en avons un petit peu parlé en voyant comment Dieu déploie un récit de la création. Et nous pouvons avoir un regard sur les mots qui reviennent. On voit que tout se passe dans le questionnement avec un « qui revient ». Qui a creusé des gorges pour les torrents? Qui enfante le givre des cieux? Dieu ne cesse d'interroger Job pour lui faire prendre conscience, pour lui le remettre devant, en face du Créateur qui lui parle et qui est son Créateur. Il faut que Job se décentre de lui-même et voit la formidable bonté de Dieu dans son acte de création. La formidable bonté de Dieu sur laquelle il ne peut prétendre avoir prise. Ce qu'on voit au verset 26 du chapitre 39, « Est-ce par ton intelligence que s'emplume l'épervier et qu'il déploie ses ailes vers le sud? Est-ce sur ton ordre que l'aigle s'élève et bâtit son aire sur les sommets ?» Nous passons au chapitre 40. Celui qui dispute avec le puissant a-t-il à critiquer? N'est-ce pas là ce qui risque de distancier Job, l'homme intègre, de son Dieu? Et Dieu poursuit au verset 8, « Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour te justifier. Le Seigneur présente la justice de Job et sa propre justice comme incompatibles. Souvenons-nous, au chapitre 7, verset 19, Job qui dit à Dieu « Pourquoi m'avoir pris pour cible ?» Et il poursuit, au chapitre 19, verset 6, « Dieu lui-même m'a fait du tort et enveloppé de son filet. » Et je continue ce chapitre 19, « Si je crie à la violence, pas de réponse. Si je n'appelle point de jugement, il a dressé sur ma route un mur infranchissable, mis des ténèbres sur mes sentiers. » Tant que Job raisonne en accusant Dieu, comment avoir accès à l'être de Dieu? Je reprends chapitre 40, verset 9. « As-tu donc un bras comme celui de Dieu ?» demande Dieu lui-même. « Ta voix est-elle un tonnerre comme le sien ? Allons, pars-toi de majesté et de grandeur. Alors moi-même je te rendrai hommage, car ta droite t'aura valu la victoire. » Dieu qui se manifeste dans la tempête de Job demande à Job, ta voix est-elle tonnerre? Es-tu capable d'abaisser, de faire plier, d'écraser, de bâillonner le méchant? Lorsque Dieu prend la parole, il commence par questionnement et ironie, par inviter Job à retrouver, à réépouser sa place de créature, à se réincarner dans sa place de créature. Puis vient la description de Behemoth, le bestial, donc traduit par l'hippopotame, et le Léviathan, le crocodile. Nous pouvons les voir comme des symboles, des mots qui ont atteint Job. Le mal physique, la brute qui frappe aveuglément et détruit en pure perte, que l'homme ne peut mater, et le Léviathan, le tortueux, pourrait désigner le mal sournois, celui que les hommes font subir à leurs semblables. Mais le Seigneur se manifeste comme plus fort. Nous entendons en écho, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est ce que chante le psalmiste. Psaume 74, verset 14, « Tu as écrasé les têtes du Léviathan. » Ou Isaïe 27, 1, « Ce jour-là, le Seigneur interviendra avec son épée acérée, énorme, puissante, contre Léviathan, le serpent fuyant. Contre Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le dragon de la mer. » La souffrance de Job serait-elle à son sommet s'il maintenait son regard sur ce créateur? Le mal atteint bien Job, comme le Léviathan crocodile sournois. Brave les colosses, il est roi sur tous les fauves. Mais que Job maintienne son regard sur le Créateur. Chapitre 41, verset 1. Voici, vois, devant lui, l'assurance n'est qu'illusion. Sa vue seule suffit à terrasser. Nul n'est téméraire pour l'exciter. Qui donc alors oserait me tenir tête? Qui m'a fait une avance qui me faille rembourser? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Donc, nous voyons, nous avons vu en sous-groupe que Dieu offre en un sens les figures de Behemoth et Léviathan, et par là, il permet à Job de se décentrer de sa propre souffrance et en contemplant le Créateur qui est au-dessus et sa propre impuissance. Job va répondre au chapitre 42, verset 1. Job répondit au Seigneur et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. » Et il reprend les paroles du Seigneur que Dieu lui avait adressées à lui-même. « Qui est celui qui dénigre la providence sans rien connaître ?» Et oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Écoute-moi, disais-je, à ma parole, à moi la parole, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Job a bien changé de posture, il a changé de prisme. Est-ce pour s'anéantir face à Dieu ou au contraire sortir de son solipsisme et devenir capable de recevoir ce qui lui fera tenir ferme en son épreuve? Comme il est dit à Moïse, en homme qui voit celui qui est invisible, comme il est dit de Moïse, pardon, il tient ferme. Nous entendons en écho. Pour les hommes, c'est impossible. Tension. La suite de notre récit sera telle, mais pour Dieu, tout est possible. Matthieu 24, 26. Verset 3 du chapitre 42. Et oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent, dit Job. Écoute-moi, disais-je. À moi la parole, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par ouï dire. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Note de la Tobe. À la différence des scribes d'Israël ou des amis de Job, le poète affirme la possibilité d'une certaine expérience directe de Dieu qui dévaluera les traditions héritées sur lesquelles se crispaient les amis de Job. C'est moi qui ajoute. Mon œil t'a vu. Après un bien rude combat. Mais l'auteur du livre ne spécifie pas ce que Job a vu. C'est de l'ordre de l'intime. C'est de l'ordre de l'exaucement de sa foi. Je reprends ce que nous avons lu au chapitre 19, verset 27. C'est moi qui le contemplerai. Oui, moi, mes yeux le verront. Et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Moi, je le verrai. Littéralement, celui que moi, je verrai pour moi. Nous sommes dans le même ordre de vécu que celui de Jacob. Quand Jacob, après la lutte avec l'ange ou avec Dieu, selon les versions, donna à l'endroit où il s'est battu pendant toute la nuit le nom de Pénuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Ou Isaïe, chapitre 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, Sabaoth. » Et Job va poursuivre au verset 6. « Aussi, selon la Tobe, j'ai horreur de moi, selon Chouraki ou la Bégie, je me rétracte. » Et en fait, non. Ce qui est traduit « je me rétracte », en fait, il n'y a pas d'objet dans l'hébreu. C'est « je rétracte ». Et nous pouvons nous demander, qu'est-ce qu'il rétracte? N'est-ce pas sa perception antérieure d'un Dieu qui le condamne et qui l'enferme? N'est-ce pas cela qu'il rétracte pour en venir à dire « mes yeux t'ont vu » et je me console sur la poussière et sur la cendre, traduit Chouraki. Alors, sur « je me rétracte » ou « j'ai horreur de moi », la note de la Tobe, il s'agit moins d'une rétractation que d'une prise de conscience de la relation jusque-là méconnue qui unit Job au Dieu saint. Le héros est tout à la fois écrasé par la majesté divine et ému par la délicatesse de celui qui le maintient en vie au sein d'un univers énigmatique et vivant et immense. Alors, ce « j'ai horreur de moi » ou bien « je rejette » en hébreu « ma'as », en lévitique, il y a ce mot, et qui est « si vous rejetez mes lois ». Donc c'est bien « rejeter » en lévitique. Il est oui. Est-ce lui, donc je reprends, est-ce lui-même que Job condamne ou cette conception, ces conceptions d'un Dieu injuste? Alors, je rejette la perception que j'avais avant de t'avoir vu. Je prends distance par rapport à la poussière et la cendre. Je change de prisme, je quitte mon deuil, je renouvelle ma confiance et ma foi. Et Rader dit, voyons bien que c'est l'initiative de Dieu qui permet à Job de changer de posture, de se convertir. Et donc je reprends au verset 6b, je me désavoue, dit, je traduis la tobe, et Shuraki, je me conforte. Alors j'ai cherché Naham, au Nifal, en hébreu, qui peut être traduit regretter, s'autoriser à être désolé, ou conforter, consoler. Alors j'ai cherché Naham, c'est l'étymologie de Noé, qui porte ce nom de Noé, car, dit Dieu, il nous apportera dans notre travail et le labeur de nos mains une consolation tirée du sol. Alors, en Genèse 6,6, le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'en affligea. Mais donc on voit selon les contextes qu'il faut bien être attentif. En Genèse au chapitre 24, Isaac se consola de la perte de sa mère quand il rencontre Rebecca. En Genèse 37, Joseph, quand tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, il refusa de se consoler. Et donc, il y a une série d'occurrences où c'est bien consolé, mais le plus important, c'est que les cinq autres occurrences du verbe en Job, dans le livre de Job, ont bien le sens de la consolation. Il y a une autre occurrence, mais qui est dans un tout autre contexte. Alors, en Job 2, les trois amis de Job qui apprennent sa souffrance, ils vinrent pour le consoler. En chapitre 16, « Quel pénible consolateur vous faites, dit Job à ses amis, entre guillemets. » Au chapitre 21, « Pourquoi vous donc vous perdre en consolation ?» Au chapitre 29, « Je demeurerai comme quelqu'un qui console les affligés. » Je demeure, oui. Au chapitre 42, ses frères, ses sœurs et ses connaissances d'autrefois vinrent tous alors le visiter. Ils mangèrent avec lui, ils le plaignirent et le consolèrent de tout le malheur que lui avait envoyé le Seigneur. Et donc, je pense que le fait que toutes les autres fois le mot Naham est traduit par la consolation, ça nous autorise bien à traduire « je me console sur la poussière et sur la cendre ». Ce qui peut vouloir dire « je suis bien encore sur la poussière et sur la cendre de mon épreuve, dans une situation de deuil, mais quel serait ce deuil ? N'est-ce pas aussi la consolation de faire le deuil de son ancienne conception de Dieu, de sa souffrance, de perception d'un Dieu qui serait venu le persécuter ? Alors, nous pouvons reprendre ici la question. Job est-il innocent ? Est-il sans faute ? Il lui fallait bien abandonner tout entre les mains de Dieu, y compris la reconnaissance de son innocence. L'innocence n'est pas la question centrale ici, l'innocence de Job, et c'est sa crispation peut-être sur cette question qui l'entravait dans son accès à Dieu, qui se rendait présent à lui. Nous reprenons chapitre 42, verset 7. Or, après qu'il eut adressé ces paroles à Job, le Seigneur dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère flambe contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Ces mots « mon serviteur Job » sont doux à entendre, après tout ce que nous avons traversé avec lui. Quelle est cette droiture dont ont manqué les amis de Job ? Alors, si nous relisons Job chapitre 13, verset 7, « Est-ce pour Dieu que vous proférez des paroles injustes pour lui, ses propos mensongers ?» Donc, durant les échanges que nous avons eus, nous sommes plusieurs fois revenus sur le fait du cœur de marbre des amis. Et est-il possible de parler de Dieu avec droiture en restant de marbre à côté de celui qui souffre ? Donc c'est vraiment, je pense, une question que nous pose ce récit. Et pour ce qui est de mon serviteur Job, répété 4 fois en 2 versets, de la bouche de Dieu, qui vient s'opposer à la piètre apologétique des 3 amis, entre guillemets, et qui vient, ces versets viennent faire écho à la fierté de Dieu au tout début, où Dieu parlait de mon serviteur Job, qui est intègre et droit. Je reprends ici Jean Rademakers. Dieu s'engage avec l'homme pour dominer en lui les forces du mal, en pénétrant le cœur de l'homme de son amour inconditionnel. L'expérience de Dieu, c'est découvrir par grâce qu'il vit tout avec nous, au plus intime de notre être qu'il a formé. Pour rencontrer Dieu, il nous faut tout abandonner. Et ce vide que nous avons créé en nous laisse place pour sa présence unique. J'ai repris parce que j'aurais pas pu mieux formuler en quelques mots tout le mystère dans lequel nous sommes. Et quelque part, eh bien, la cendre a bien sa place ici. Il y a vraiment un deuil de la part de Job qui est absolument indispensable à la contemplation de Dieu. Je reprends les mots de Jean Rademakers. Ce vide que nous avons créé en nous laisse place pour cette présence unique de notre Dieu. Et on voit toute l'importance ici de mon serviteur Job, et on peut l'entendre de la bouche de Dieu, ce Dieu créateur qui a déployé aux oreilles de Job toute la bonté qu'il déploie dans son acte créateur et qu'ici il déploie envers son serviteur de façon explicite. Verset 8 du chapitre 42. Maintenant, dit Dieu, il parle aux amis de Job, prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez pour vous en holocauste, tandis que mon serviteur Job intercédera pour vous. Alors, nous pouvons nous rappeler ici que les 3 amis, ils appelaient Job à faire appel au pardon divin. Au chapitre 8, verset 5, Bildad, si toi tu recherches Dieu, si tu supplies le puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ensuite, Sophar, au chapitre 11, versets 13 à 15, « Toi, quand tu auras affermi ton jugement, quand tu étendras vers lui, vers ton Dieu, les paumes de tes mains, s'il y a des méfaits dans tes mains, jette-les au loin et que la perversité n'habite pas sous ta tente. Alors, tu lèveras un front sans tache. Purifié des scories, tu ne craindras plus. » Puis Job, au chapitre 22, versets 27 et 28, « Quand tu le supplieras, il t'exaucera et tu n'auras plus qu'à t'acquitter de ses vœux. » Et donc, on voit du haut, quelque part, de leur suffisance, comment les amis invitent Job à prier Dieu de lui faire miséricorde, et puis comment Dieu, dans sa bonté, va prendre soin des amis. On peut penser, bien sûr, au verset du Magnificat, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Mais les humbles peuvent bien être les puissants qui ont été renversés de leur trône. Et donc, on peut se dire que Job, que Dieu, s'il se penche sur son serviteur Job, il se penche aussi sur les amis. Et donc, il y a toute cette place de l'intercession. Au verset 9, au verset 8 encore, il intercédera pour vous. Alors, cette place, on la trouve de l'intercession les uns pour les autres, on la trouve dans la Bible, en Genèse 20. Oui, c'est le songe concernant Sarah, la femme d'Abraham. Abraham avait prétendu que c'était sa sœur, et donc elle avait été prise comme concubine, on peut dire. Et voilà, rends maintenant à cet homme sa femme, dit Dieu à Abraham, non, dit Dieu à ce roi, car c'est un prophète qui intercédera en ta faveur pour que tu vives. Alors, et Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, etc. En Exode 32, Moïse au verset 11, Moïse apaisa la face du Seigneur, son Dieu, en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère veut-elle s'enflammer contre ton peuple? C'est l'histoire du veau d'or. Donc, Moïse qui apaise la face du Seigneur. Je reviens en Genèse chapitre 18, quand Abraham, l'intercession d'Abraham, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, donc c'est l'histoire de Sodome. Et c'est ce long passage où Abraham dit peut-être y a-t-il 50 justes, peut-être 40, peut-être 10 justes. Et ensuite en Nombre, Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit, fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Ce qui mène bien sûr notre regard vers le Nouveau Testament. Je termine au verset 9. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Sophar de Naama s'en furent exécuter l'ordre du Seigneur et le Seigneur eut égard à Job. Il pourrait être sous-entendu, il eut égard à son intercession pour ses amis. Je m'en tiens là, nous savons qu'après Dieu rétablit Job en lui donnant infiniment plus que l'opulence et la famille qu'il avait, sur la famille et l'opulence, je préfère, qu'il avait au départ. Et je proposerai, il nous reste un tableau, on va arrêter là peut-être.